Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Un Français parmi les lauréats du prix Nobel de physique 2022. C'est assez rare pour être souligné. Aucun scientifique parmi les conseillers du pouvoir, situation que l'on ne retrouve pas chez nos voisins européens. Ajoutez à cela une défiance à l'égard de la science qui semble toujours plus s'étendre dans le sillage de la crise du Covid-19. Voilà pour le tableau. Cela nous emmène à poser la question suivante ce soir dans le débat du jour. Est-ce que la France, pays pourtant de Pasteur, est-ce que la France a un problème avec les sciences? Pourquoi la parole scientifique n'est-elle pas mieux écoutée, n'est-elle pas mieux considérée? La faute à qui? Et comment rectifier le tir? Eh bien, voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, Dominique Costagliola, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes épidémiologiste et directrice de recherche émérite à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Face à vous, Michel Dubois, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, directeur de recherche au CNRS, co-auteur d'une enquête qui a été publiée au mois de septembre intitulée « L'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche à l'épreuve de la crise du Covid-19 ». Évidemment, on va beaucoup parler de cette crise du Covid-19 dans ce débat du jour. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. De RFI. Alors, il y a beaucoup d'études, on citait celles que vous avez menées, Michel Dubois, mais il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur ce sujet auprès des Français. Je vais citer un chiffre d'une enquête récente réalisée au mois de septembre par l'IFOP pour la revue en ligne de l'Institut Polytechnique de Paris, qui affirme que 45% des personnes interrogées, donc près d'un Français sur deux, considèrent que la science apporte aujourd'hui autant de bien que de mal. Alors c'est un chiffre, on va le voir, qui peut être même plus important selon les études. Que vous inspire ce chiffre, Dominique Costagliola, vous qui êtes épidémiologiste?
Je pense que c'est difficile d'évaluer la science d'une façon générale, de toute façon. Donc je pense qu'il y a eu toute une période de l'histoire, au fond, où on croyait d'une façon générale au progrès scientifique. C'était pas forcément d'ailleurs plus établi que ça, mais c'était la croyance générale. Et puis je pense que tout ce qui a été vécu au XXe siècle, et notamment pendant les guerres et notamment avec l'utilisation de la bombe atomique, les gens se sont dit que voilà, il y avait peut-être plus à discuter autour de ces choses-là. Après, je pense qu'effectivement, ce qui a été particulier, au fond, pendant la crise Covid, c'est le fait d'avoir vu s'étaler aussi des positions extrêmement différentes qui étaient portées par des académiques. Et donc, du coup, il y avait ce côté de dire, eh bien, le consensus n'existe pas. Voilà. De la même façon qu'on a nié le réchauffement climatique, alors que finalement, le travail d'un groupe comme le GIEC, où les gens sont obligés justement de discuter, de se mettre d'accord pour réaliser vraiment un consensus. Voilà, était malgré tout nié par des personnes qui avaient l'air d'avoir un appanage scientifique. Donc voilà, ça a contribué finalement à cette situation de on ne sait pas bien dans quelle direction les choses vont.
Vous avez le sentiment, en quoi cette crise du Covid-19, elle a accéléré la défiance? C'est un mot qu'on dit beaucoup, la défiance des Français à l'égard du scientifique.
Ben, je pense les gens ont entendu des choses extrêmement contradictoires de personnes qui étaient des académiques et qui disaient des contre-vérités manifestes.
Mais qu'est-ce que vous entendez par des académiques?
Eh bien, des gens qui sont des chercheurs d'organismes de recherche, des universitaires, et c'est vrai en France comme c'est vrai dans d'autres pays, il y a des gens qui se sont mis à dire des choses qui n'étaient qu'on pouvait facilement démonter en science, mais...
On peut citer Didier Raoult, par exemple.
Didier Raoult, mais aussi, par exemple, quelqu'un comme Ioannidis aux États-Unis, voilà, qui a dit que finalement, en gros, il fallait rien faire, quoi. Je caricature, mais à peine, avec des études qu'il a réussi à publier à cause de son entregent, mais qui étaient faciles à démonter sur le plan scientifique, mais qui néanmoins ont servi de base à des argumentations qui ont ensuite été utilisées.
Et vous pensez que ça a décrédibilisé la parole scientifique, ça?
Parce que les gens vivaient dans une espèce de mythe, comme si les chercheurs, c'était tous des chercheurs de vérité et des gens, finalement, avec des qualités particulières. Or, ils ont tous des qualités et des défauts. Et donc, d'habitude, on ne voit pas ce débat sur la place publique. Ces débats peuvent exister dans la sphère scientifique, mais ce n'est pas quelque chose qui est à la première page des journaux.
public. Donc, c'est la faute des médias. Michel Dubois, vous qui êtes sociologue, est-ce que ce sont les médias qui ont trop laissé parler ces médecins polémiques qu'évoque Dominique Costagliola?
Je ne veux pas mettre en cause les médias, mais je vais mettre en cause votre cadrage initial. Oui, vous allez voir pourquoi. Vous avez fait effectivement télescoper deux choses. Une première chose qui est le cadrage traditionnel des médias, effectivement, sur cette question du rapport des Français à la science, en termes, souvent cadré en termes de défiance. Et là-dessus, moi, je pense que les sciences sociales ont vraiment quelque chose d'intéressant à apporter, puisqu'on fait ce travail justement de mesure d'attitude, et on le fait depuis 50 ans. Donc on peut voir l'évolution un petit peu des attitudes des Français par rapport à cela. Et ce que nous disent ces enquêtes qu'on mène depuis 50 ans, c'est que la confiance est là. Donc on a toujours à peu près 80 à 90% de nos enquêtés qui disent faire confiance aux scientifiques en général. Et ce qu'on a observé, ce qu'on a mesuré pendant la crise Covid, c'est aussi ça. Donc on a une mesure stable de confiance. Finalement, la seule catégorie qui dépasse les scientifiques dans l'expression de confiance, ce sont les médecins. Voilà. Et après, effectivement, on peut se déplacer dans l'échelle des groupes professionnels en fonction de ce degré de confiance exprimée. Et là, on voit bien qu'il y a des hiérarchies qui sont très stables en réalité. Et vous avez télescopé effectivement ce que vous pensez être un sentiment de défiance avec ce que moi j'ai qualifié un sentiment sans doute d'ambivalence. C'est-à-dire qu'on a effectivement en France une singularité qui est souvent effectivement mesurée à partir de cette question que vous avez rappelée, qui est quel est selon vous finalement l'apport des sciences. Ce n'est pas les sciences en tant que telles, mais ce sont les applications des sciences. Et on a cette modalité de réponse qui est autant de bien que de mal. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui singularise la France au niveau international, puisqu'on est en quelque sorte à un record. Alors nous, on avait mesuré ça à 61%, c'était en novembre 2021, c'est-à-dire en pleine crise, en tout cas avec un sentiment de crise très fort. Donc peut-être que les choses sont un petit peu apaisées avec maintenant un an de recul, mais les mêmes enquêtes en utilisant le même item dans le Pew Research Center, donc un groupe international qui fait des enquêtes à l'échelle mondiale, trouvaient exactement les mêmes chiffres que nous.
61% de quoi ?
61% d'enquêtés qui considéraient que la science apporte autant de bien que de mal. Là où, si on reprend la même question posée dans les années 80, on avait une majorité...
C'est un chiffre encore plus haut, c'est pour ça que je dis que les enquêtes diffèrent, encore plus haut que celui que j'ai cité, qui était de 45%.
Exactement. Et il faut comparer ça à la situation des années 70-80, où les Français étaient majoritairement tout à fait confiants dans l'idée que la science apportait plus de bien que de mal.
Et donc, pourquoi ça évolue comme ça ?
Alors, bonne question. Excellente question. Effectivement, on peut essayer de réfléchir à tout ce qui s'est passé, grosso modo, depuis les années 70-80. Alors, on pourrait dire une accumulation sans doute de crises sanitaires qui ont sans doute un petit peu fragilisé, en tout cas, cette idée qu'il y avait toujours des conséquences positives du point de vue des innovations portées par les sciences. Et donc, je le répète, il ne s'agit pas ici de questionner la confiance accordée à la science, accordée aux scientifiques, mais plus une réflexion sur, finalement, le manque de convergence entre les avancées technologiques, les innovations, les produits de la science et ce que pourrait être une forme de progrès social. Donc, ce qu'on a en France, c'est ça. C'est un petit peu une forme de disjonction entre, d'un côté, ce qui est le progrès, l'innovation technologique, et d'autre part, le progrès social, le sentiment de bien-être. Je pense qu'on voit, si on regarde un petit peu les évolutions, en gros, on voit diverger les courbes depuis le milieu des années 80. Et ça s'accentue.
Mais comment on peut expliquer ce phénomène de divergence des courbes, comme vous dites ?
Divergence des courbes parce qu'effectivement, à ce stade, beaucoup des innovations qui sont produites à travers les sciences posent des questions. On prend par exemple l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il est évident qu'on peut considérer que ça peut être quelque chose de très positif du point de vue d'un ensemble de développement qui peut avoir des conséquences tout à fait utiles. On le voit d'un point de vue, par exemple, biomédical. On a, par exemple, des systèmes d'analyse de radio automatisés avec de l'intelligence artificielle qui permettent d'aller très, très vite, de faire du traitement de données très rapidement avec des conséquences positives pour la santé. Mais en même temps, ça pose des questions du point de vue, bien sûr, de la privacy, donc ce qui est le respect de la vie privée aussi.
Et les Français ont du mal du fait que la science pose des questions et n'apporte pas uniquement des réponses. C'est ça le problème aussi ? C'est une définition de la science, finalement ?
Oui, et je pense aussi, c'est peut-être aussi un manque d'accompagnement sur ces innovations qui sont des innovations problématiques, en tout cas dans l'opinion, controversées d'une certaine façon. Et sur certains dossiers, je pense qu'effectivement, il faut repenser, et c'est ce que font un certain nombre de nos collègues, ils repensent leur forme d'engagement public, la façon dont ils interviennent dans l'espace public pour justement essayer d'expliquer, d'accompagner un petit peu ces différents types d'innovations problématiques. Et de ce point de vue-là, certaines, on le sait, n'ont quasiment pas bougé en termes d'acceptabilité depuis 15 ans. C'est ce qu'on montre dans notre enquête, sur certains sujets, effectivement, l'attitude des Français est quasiment la même depuis les 15 dernières années.
Oui, c'est davantage lié finalement au progrès qu'à une évolution sociétale, finalement, parce que ça soulève des nouvelles questions.
Oui, Il y a une dynamique qui est propre, on pourrait dire, une dynamique qui est propre de la science et l'innovation technologique. Et puis, il y a une dynamique sociale, effectivement, qui est distincte. Et après, le problème, c'est de faire converger les deux et qu'effectivement, on puisse avoir, en tout cas, l'idée que le progrès scientifique et le progrès technologique puissent être couplés d'une façon ou d'une autre à un progrès social.
Dominique Costagliola, alors vous êtes connu pour votre franc-parler, c'est ainsi que vous êtes défini, par les cash, c'est ce qui ressort un petit peu des articles qui sont consacrés à votre carrière d'épidémiologiste. Est-ce que vous pensez que les scientifiques savent bien parler des sciences aujourd'hui?
Je pense que je suis pas sûre que je comprends bien. Qu'est-ce que ça voudrait dire bien parler des sciences? C'est-à-dire comment on va finalement communiquer au public?
Est-ce que la communication se fait bien? Oui.
Je pense que ça. Je suis un peu démunie pour répondre à votre question.
Ça peut être ce qui explique la question ce soir, c'est est-ce que la France a un problème avec les sciences? Alors la France a peut-être aussi un problème avec les sciences parce que les scientifiques ne savent pas communiquer.
Mais c'est aussi parce que finalement, au fond, dans quel contexte on donne la parole à des scientifiques? Est-ce qu'on les invite pour qu'ils donnent de l'information? Est-ce qu'on les invite parce que ça fait de la polémique? Est-ce qu'on les
question des médias
s'exprime quoi? Donc ça c'est pas tellement évident. Et enfin moi mon expérience c'est qu'au fond, par exemple, si on m'invite sur la gestion de la crise Covid, on sait ce que je vais dire. Et c'est pour ça qu'on m'invite. Et c'est ça qu'on me demande de dire quelque part, même si on ne le demande pas de façon explicite. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est attendu par le média inviteur d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un jeu qui est finalement assez complexe. Et puis après, je pense que au fond, c'est pas sur ses qualités à communiquer avec le grand public qu'on sélectionne les chercheurs d'une façon générale. Donc après, il peut avoir une appétence naturelle pour le faire, il peut suivre des formations pour le faire, mais c'est pas au fond l'essentiel de ce sur quoi il est orienté dans ses activités quotidiennes. Alors bien sûr, ça fait partie de ses missions, mais voilà, il y en a tellement, chacun va briller plus ou moins sur certaines des missions qui sont les missions.
Mais est-ce qu'il faudrait revoir l'exposition médiatique des scientifiques?
Si vous voulez, c'est pas forcément quelque chose que vous recherchez, c'est plus quelque chose qui va vous tomber dessus. Et puis après, dans la communication telle qu'elle est organisée, quand quelqu'un fait une découverte, vous voyez, le nombre de fois où on vous dit « Ah, c'est l'espoir d'un traitement », mais on sera tous morts et enterrés, qu'il se sera toujours rien passé. Je parle pour mon domaine, qui est celui de la recherche biomédicale. Parce que non, bien sûr, toutes ces découvertes que l'on fait ne vont pas donner d'ici 10 ans, ou même d'ici 20 ans, ou même d'ici 50 ans, une révolution dans la prise en charge de telle ou telle pathologie. Donc,
c'est
souvent la communication, au fond, des résultats scientifiques, elle survend le résultat tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que le résultat n'est pas intéressant.
Et ça ne colle pas aux aspirations sociétales, finalement,
après,
en France, on peut dire
et
ça.
Et après, du coup, à force, je ne sais pas, mais vous voyez, à force d'entendre dire, tiens, on va révolutionner ici, puis on va révolutionner ça. Puis, de toute façon, des années après, finalement, on s'aperçoit qu'on bute toujours pour certains des grands problèmes. Je ne suis pas sûre que ça a aidé, finalement, à avoir une communication qui soit audible du côté du public.
Michel Dubois.
Oui, peut-être une réaction, en tout cas cette idée que la communication nous tombe dessus, elle ne nous tombe pas toujours dessus, c'est-à-dire que clairement, et c'est ce que l'on voit en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont très engagés sur un certain nombre d'enjeux notamment sur la prise en compte des enjeux climatiques par les politiques publiques, et on voit que ces collègues ont véritablement investi la sphère publique, communiquent de façon massive et ont bien compris que quelque part, l'expérience de la crise Covid démontrait que un certain nombre d'expertises pouvaient avoir une forme d'efficacité sociale et politique, et c'est vrai que j'ai le souvenir quand même de Jean-François Delfraissy commentant la surprise qui était la sienne lorsqu'il s'est aperçu que les autorités publiques avait suivi ses recommandations et avait mis à l'arrêt une société complète, ce qui était un moment sans doute de réalisation et de prise de conscience assez important. Donc c'est une démonstration de force pour l'expertise. Et par contraste, par effet de contraste, tous ceux qui sont effectivement engagés autour de ces questions de changement climatique, d'enjeux climatiques et de modification des politiques publiques peuvent prendre conscience, pour le coup, d'une forme d'inefficacité sociale, et ils sont en train de revoir, à mon sens, leur leurs actions de communication, leur forme d'engagement, précisément à l'aune de cette démonstration de force de leurs collègues, en tout cas sur la dimension Covid. Donc je pense que c'est intéressant de mettre en regard crise Covid d'un côté et crise climatique de l'autre, parce qu'il y a une forme d'apprentissage en réalité qui est en train de se jouer. Et moi, je suis assez sensible à ces nouvelles formes de mobilisation que l'on peut observer. Alors c'est effectivement ma dimension de sociologie ici, mais je m'intéresse à cette dimension de mobilisation sociale des scientifiques, de la communauté scientifique. Il y a toujours eu des mobilisations sociales et politiques de la communauté scientifique, mais là, on voit qui est une forme de renouvellement. Donc on voit notamment maintenant des chercheurs, j'ai vu récemment un chercheur de la NASA qui s'enchaînait aux portes d'une banque américaine, donc on a vu ça, avec une dimension de communication qui est très très forte. Ces actions sont pensées comme des actions de communication.
Vous touchez un point important, parce que vous avez cité politique. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics ne suivent pas suffisamment les recommandations de la science? On a beaucoup parlé effectivement du conseil scientifique pendant la crise du Covid-19. 82% des Français, on parle des Français avec les sciences ce soir, 82% des Français pensent que les décideurs politiques devraient davantage s'appuyer sur les scientifiques. Il y a une déconnexion entre les politiques et les scientifiques en France?
Alors, ça a toujours été une relation compliquée. C'est une relation compliquée parce qu'il est évident que si le politique suit mécaniquement, systématiquement un conseil scientifique, on va lui reprocher quasiment d'être instrumentalisé par les experts et donc d'être devenu une sorte de gouvernement technocrate, alors qu'on sait que par ailleurs, effectivement, il y a une forme de une légitimité démocratique et distincte qui n'est pas celle de l'expertise. Et donc le pouvoir politique, d'une certaine façon, a besoin d'affirmer quelque part sa légitimité en tant que telle, distincte d'un conseil d'experts. Mais ce qu'on a vu avec la crise Covid, effectivement, c'est que c'est ce jeu et ce rééquilibrage permanent entre d'un côté un conseil médical ou scientifique qui produit des recommandations, et puis des autorités publiques qui les suivent ou qui ne les suivent pas. Et effectivement, pendant une période, on a vu qu'il y avait une sorte de peu d'alignement systématique entre les deux dimensions, et puis progressivement ça s'est distendu, et il y a eu de part et d'autre des revendications d'autonomisation.
Parce que l'économie a pris le dessus au détriment du sanitaire.
Parce qu'effectivement il y a plein de dimensions qui ne se résument pas à des dimensions purement médicales, et moi en tant que effectivement sociologue, j'ai été aussi assez parfois irrité par le fait qu'on ne prenne pas suffisamment en compte les dimensions sociales, les inégalités sociales. On a beaucoup pesé, on a essayé de peser pour que ce conseil soit davantage qu'un conseil médical ou scientifique, et qu'il fallait intégrer des éléments de représentation de la société civile. Et c'est venu peut-être beaucoup trop tardivement, on pourrait dire, dans le raisonnement des autorités publiques. Donc voilà, il y a de bonnes raisons parfois de s'irriter de ce problème un petit peu d'écoute toute relative. Et juste pour terminer, par rapport à ça, nous, la dernière enquête donc, on a produit et qui a été rendue publique en fin septembre, montre bien qu'il y a un sentiment croissant d'inquiétude chez les scientifiques. On a fait cette enquête sur le personnel CNRS, techniciens, ingénieurs, chercheurs, et on avait comme point de référence une enquête de 2007. Et la proportion de nos enquêtés qui disent avoir le sentiment qu'il y a une crise aiguë dans le lien entre science et société a doublé en 15 ans. Et une partie de ce sentiment d'inquiétude est sans doute liée à ce problème d'écoute. Je pense qu'il y a vraiment ce sentiment qu'il y a un déficit d'écoute, en particulier du point de vue des autorités publiques.
Alors justement, concernant les autorités publiques, concrètement, Dominique Costagliola, vous qui êtes épidémiologiste, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu par les politiques, par les autorités publiques pendant la crise du coronavirus?
Je pense que les choses ont été variables. Je pense que de toute façon, enfin, si je reprends sur ce qui a été dit, bien entendu que les décisions qu'il y avait à prendre ne pouvaient pas être basées que sur les aspects de science. Un aspect qui a été totalement finalement manquant, c'était la société civile. Or, pourtant, on a tout un tas d'organismes qui existent, qu'aurait pu être sollicité, où il y a des représentants, disons, des différentes parties prenantes, y compris des représentants d'associations de patients, des représentants de spécialistes de santé publique de terrain, tout ça, qu'on aurait pu solliciter finalement pour discuter au fond de ces décisions. Et pour moi, bien entendu qu'il y avait tout un tas d'aspects à prendre en compte, et y compris au fond, d'une certaine façon, l'acceptabilité aussi d'un certain nombre des mesures. Mais ces aspects-là, finalement, au fond, ils ont été totalement cachés, masqués. D'abord, on n'a pas sollicité, y compris les organismes qui existaient, comme la Conférence nationale de santé, par exemple, qui était un bon outil qu'on aurait pu utiliser à cette occasion-là. Et aussi, on n'a pas finalement équilibré finalement pour expliquer qu'est-ce qui justifiait telle ou telle chose. Vous voyez, quand on dit on va enlever des mesures à condition que tel et tel et tel indicateur soit rempli, peut-être que ça n'est pas prudent, mais que ensuite on les enlève alors qu'aucun de ces indicateurs n'est atteint, comment voulez-vous que finalement on établisse une relation de confiance avec le public ? Ça paraît totalement impossible. Donc je pense que, voilà, l'expertise scientifique dans la gestion comme ça d'une crise, ben, c'est une partie des choses, ça n'est pas la seule. La représentation finalement de la population, elle doit aussi être prise en compte. Les conséquences, mais vous voyez, par exemple, même quand on parle des conséquences économiques, on a vu des articles d'économistes qui montraient qu'au fond, le côté de diminuer la circulation du virus, c'était ce qui était le plus efficace pour l'économie. Donc, vous voyez, c'était pas forcément antinomique de s'intéresser aussi à... Parce que finalement, au total, ce qu'il fallait, c'est minimiser les dommages d'une façon générale, globalement. Mais y compris en écoutant la population, et ça a manqué.
Le débat du jour.
La France a-t-elle un problème avec les sciences ? Notre débat ce soir, mes deux invités, Dominique Costagliola, épidémiologiste, Michel Dubois, sociologue, la population justement, on y vient, parce qu'on a parlé du politique, on a parlé des pouvoirs publics. Près de 6 personnes sur 10 affirment vouloir être davantage associées aux grands choix scientifiques et technologiques. Michel Dubois, est-ce qu'il y a une demande des Français pour un peu plus de connaissances scientifiques.
Oui,
pour...
je pense qu'on doit justement essayer un petit peu de s'appuyer sur ces chiffres pour être assez optimiste et assez proactif et pas réactif. Effectivement, on a une expression, en tout cas, de demande, d'inclusion, d'association, notamment à ces grands choix scientifiques et technologiques. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose de très positif. Et je pense que toutes les expériences qu'on a observées de démocratie, on pourrait dire scientifique et technique, dans lesquelles il y a des formes de petit peu délibératives et participatives, voilà, rencontre un certain succès.
Oui, il y a le comité citoyen, par exemple, qui a été lancé en 2021.
Oui, le comité citoyen, effectivement.
Voilà, composé de 28 membres représentatifs de la population. Ça, c'est une bonne initiative.
Alors, si vous parlez du comité citoyen pour la politique vaccinale, je dirais que ça, c'est typiquement le type de mauvaise initiative, on pourrait dire. Pourquoi ? Parce que c'est un comité qui a été construit de façon un petit peu décalée par rapport à la réalité de la population. Et donc, avec un déséquilibre initial aussi fort, avec des composantes, à mon avis, assez déséquilibrées, on ne pouvait rien sortir de vraiment très productif. Et de fait, je pense que c'est un comité qui est resté finalement assez souterrain, enfin en tout cas une sorte de sous-marin.
Mais il y a des initiatives à suivre ?
Oui, moi je pense qu'il y a vraiment il faut essayer de réfléchir un petit peu à tous ces exercices qui ont eu lieu quand même depuis de nombreuses années. Donc là, il faut se rappeler notamment de cette expérience en 98 sur les OGM avec une conférence citoyenne qui avait été à l'époque portée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et donc là, on revient à cette question du politique, c'est-à-dire l'OPEX, l'Office, c'est vraiment un office qui est inscrit à la fois composé de sénateurs et de députés. Et ils avaient, à cette époque, en tout cas, pris le parti d'investir cette démocratie scientifique et technique en organisant la première conférence citoyenne sur les OGM. Depuis, ça n'a jamais été répété. L'Office n'a jamais reproduit ce type d'exercice. Et donc, c'est une vraie question de savoir, effectivement, que par-delà la production de ces rapports qui réguliers, mais que pas grand monde ne lit, mis à part peut-être moi, peut-être, mais et que
peut-être
je trouve souvent très intéressant, mais effectivement, qui est une circulation assez limitée. Pourquoi, effectivement, cet office ne reprend pas ce rôle et qui est d'inscrire véritablement dans le politique cette mise en débat des choix scientifiques et technologiques.
Alors, vous citez un exemple intéressant, celui des OGM. Il y a eu des études qui ont nuancé un petit peu le rapport aux OGM, des études européennes, des études françaises importantes. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des Français qui massivement rejettent les OGM. Est-ce que l'émotion ne prend pas le dessus sur la rigueur scientifique dans ces moments-là ? Est-ce qu'aussi on a ce problème d'approche en France ?
Oui, c'est très difficile à ce stade, effectivement, sur des dossiers qui sont controversés. Vous parlez des OGM, mais on pourrait faire le même type de raisonnement sur plein d'autres dossiers, que ce soit le nucléaire, que ce soit... je parlais de l'intelligence artificielle. Dès qu'un sujet, en réalité, est controversé, dès lors se mélangent, effectivement, des dimensions qui relèvent de l'information, de la connaissance, de l'émotion. Et c'est ça qui fait la beauté de ces controverses, c'est qu'elles entremêlent plein de choses.
Oui, il n'y a pas que le scientifique.
Exactement. Le scientifique devient un élément important parmi d'autres. Alors un élément voilà, qu'il faut essayer de porter et auquel il faut accorder une forme de primauté en termes de connaissances, mais il est évident que ça ne va pas de soi. Et donc ça, c'est important, effectivement, de tenir compte de tous ces éléments.
Et ça, vous le ressentez, vous, Dominique Costagliola, en tant qu'épidémiologiste?
Oui.
Vous acceptez
oui.
qu'il y ait plusieurs éléments, qu'il n'y a pas que la science, finalement, autour d'un sujet?
Oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la gestion de la crise. Enfin, c'était pas, il n'y avait même pas que les aspects, finalement, épidémiologiques, médicaux, qui étaient à prendre en compte, bien entendu. Il y avait d'autres aspects à prendre en compte. Et il fallait trouver, au fond, une arène où ils arrivent tous à s'exprimer. Et que ce soit quelque chose qui ne paraisse pas comme secret, mais comme quelque chose de transparent et de public. Et ce n'est pas forcément facile à faire, mais c'est vraiment ça, pour moi, le chemin. Et par ailleurs, au sein même du monde scientifique, voilà, c'est un champ qui se développe, de faire ce qu'on appelle la recherche participative, c'est-à-dire dans lequel on conçoit les projets, y compris directement avec les personnes sur lesquelles, finalement, les résultats pourraient s'appliquer. On réfléchit avec eux sur comment on va construire les projets. Et c'est quelque chose qui permet réellement de faire avancer, de poser les questions différemment, et puis d'apprendre aussi à se parler, à s'écouter. Et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important.
Vous avez pu, en tant qu'épidémiologiste, directrice de recherche émérite à l'INSERM, organiser des conférences. Vous avez senti un intérêt du public sur les questions scientifiques?
Oui, ça, grandissant. Il y a toujours. Enfin, quand vous êtes sur une thématique, moi, il se trouve que je travaille pour mes recherches sur l'infection à VIH. Je peux vous dire que dès que je suis dans un endroit grand public, je suis bombardée de questions de tous ordres. Il y a vraiment un intérêt autour de ça. Et par ailleurs, c'est aussi un domaine dans lequel on a justement beaucoup d'associations de personnes qui sont parties prenantes et qui ont au contraire poussé au fond à leur participation, y compris dès la conception des recherches, à ce qu'ils soient présents, qu'ils s'expriment, qu'on puisse travailler avec eux. Et bien sûr, il y a plein d'autres domaines et plein d'autres scientifiques maintenant qui ont aussi finalement... adopter cette approche pour travailler quand on travaille en recherche biomédicale. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut continuer d'aller et qui pourrait aussi justement permettre d'avoir une plus grande ouverture finalement sur l'ensemble du public.
Michel Dubois, est-ce que l'approche est très différente chez nos voisins européens? C'est une question vaste. Hein. L'approche scientifique, le rapport aux scientifiques.
Ah, le rapport aux sciences.
Ouais.
Je vais répondre à votre question, mais juste pour rebondir.
Il reste deux minutes.
Deux minutes, d'accord. ce que vient de dire Dominique, effectivement, cette dimension participative me semble extrêmement importante. Et l'enquête qu'on a rendue publique en septembre est le produit d'une recherche participative. On a travaillé avec des référents intégrité, avec différentes justement parties prenantes, ce qu'on appelle des stakeholders, et qui ont la connaissance, l'expérience des problèmes qu'on traite. Et donc, ça a été extrêmement intéressant pour nous, justement, de faire ce travail de maillage, en quelque sorte, entre ce qui relève d'une approche académique et ce qui relève d'une approche plus engagée et plus impliquée. Et je pense qu'une partie des résultats tient en partie à ce type d'approche. Pour répondre à votre question, oui, il y a des très grosses variations. Moi, j'ai travaillé 3 ans aux États-Unis dans le cadre du réseau international du CNRS, à Los Angeles, puis après à Washington. Il est évident que le rapport aux innovations technologiques est complètement différent. Le rapport aux sciences, il y a une forme d'enthousiasme. Tout à l'heure, je parlais du caractère un petit peu désenchanté des Français à l'égard des sciences et des techniques.
C'est pas, très lié aux mentalités.
Pas défiant, mais désenchanté. Et effectivement, il y a quelque chose dans l'enthousiasme un peu naïf que peuvent avoir un certain nombre de nos collègues américains par rapport aux innovations, quelque chose qui emporte. Il y a une dynamique qui est totalement différente. Et on peut retrouver effectivement des variations également en Europe, entre l'Europe du Nord, les pays nordiques. Effectivement, on retrouve quelque chose aussi de cette sorte d'adhésion aux innovations et à la science. Donc nous, on a un regard critique. Comme vous le dites, il y a peut-être quelque chose de national un petit peu dans ce regard critique. Et donc, il faut apprendre aussi, quand on revient en France, c'est tellement frappant, à garder quelque chose de cet esprit positif qu'on observe dans beaucoup d'autres pays.
Et ben, je vais rester sur ce mot positif. Et finalement, à vous entendre, j'ai bien compris que la France n'avait pas tant que ça un problème avec les sciences et en tout cas que la situation est évolutive. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat du jour. Michel Dubois, sociologue, directeur de recherche au CNRS, co-auteur de l'enquête « L'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche à l'épreuve de la crise Covid-19 » qui a été publiée au mois de septembre. Dominique Costagliola, merci, épidémiologiste, directrice de recherche recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Merci à Florence Ponce et à Christophe Loisel, respectivement à la préparation et à la réalisation de ce débat. Merci à la documentation de RFI. Rendez-vous demain. Qui va gagner la bataille de l'électrique dans le monde de l'automobile? Rien à voir. Ce sera notre question à l'occasion du salon de l'auto qui se déroule actuellement à Paris. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes RFI Soir.